La Révolution, la France et l'égalité. Depuis la Révolution de 1789, la France aime se présenter au monde comme le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. La promesse d'égalité qui se trouve au cœur de ce grand récit national repose certes sur des éléments tangibles, à commencer par l'abolition des privilèges fiscaux de la noblesse et du clergé lors de la nuit du 4 août 1789, ainsi que la tentative de mettre en place, en 1792-1794, un régime républicain fondé sur le suffrage universel. Ce qui n'était pas banal pour l'époque, tout cela dans un pays beaucoup plus peuplé que les autres monarchies occidentales. Plus généralement, la constitution d'une puissance publique centralisée, permettant de mettre fin aux privilèges juridictionnels seigneuriaux et susceptible de réaliser un jour l'objectif d'égalité, était tout sauf une réalisation mineure du nouveau régime. Il reste qu'en termes d'égalité réelle, la grande promesse de la Révolution ne fut guère suivie d'effet. Le fait que la concentration de la propriété n'a cessé de s'accroître au cours du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe, et était encore plus forte à la veille de la Première Guerre mondiale que dans les années 1780, montre l'ampleur de l'écart entre les promesses révolutionnaires et la réalité. Et quand l'impôt progressif sur le revenu fut finalement adopté par les parlementaires, lors du vote du 15 juillet 1914, ce n'était pas pour financer les écoles ou les services publics, c'était pour financer la guerre contre l'Allemagne. Il est particulièrement frappant de constater que la France, pays autoproclamé de l'égalité, fut en réalité l'un des tout derniers pays occidentaux à adopter l'impôt progressif sur le revenu, qui était déjà en place depuis 1870 au Danemark, 1887 au Japon, 1891 en Prusse, 1903 en Suède, 1909 au Royaume-Uni et 1913 aux États-Unis. Il fallut certes attendre quelques années seulement avant la guerre pour que cette réforme fiscale emblématique soit mise en place dans ces deux derniers pays, et ce fut dans les deux cas au prix de batailles politiques épiques et de réformes constitutionnelles majeures. Mais au moins, s'agissait-il de réformes acquises par temps de paix, dans le but de financer des dépenses civiles et de favoriser une certaine réduction des inégalités, et non pas comme en France sous la pression de l'urgence guerrière, militaire et nationaliste. Sans doute l'impôt sur le revenu aurait-il finalement été adopté en l'absence de guerre, sur la base de l'expérience réussie des autres pays, ou bien à la suite d'autres crises financières ou militaires. Mais le fait est que c'est ainsi qu'il fut adopté en France après tous les autres pays. Il est également important de noter que ce retard égalitaire et cette hypocrisie française s'expliquent pour une large part par une forme de nationalisme intellectuel et d'autosatisfaction historique. De 1871 à 1914, les élites politiques et économiques de la Troisième République usent et abusent de l'argument selon lequel la France serait déjà devenue égalitaire par la grâce de la Révolution et n'aurait donc nullement besoin d'un impôt spoliateur et inquisitorial, contrairement d'ailleurs aux voisins aristocratiques et autoritaires entourant le pays, à commencer par le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui seraient bien avisés de créer deux rechefs des impôts progressifs afin d'avoir une chance de s'approcher de l'idéal égalitaire hexagonal. Le problème est que cet argument de l'exceptionnalité égalitaire française était dépourvu de toute base factuelle solide. Les archives successorales nous ont montré que la France du XIXe siècle et du début du XXe était prodigieusement inégalitaire et que la concentration de la propriété y a progressé continuement jusqu'à la guerre. Caillaux fit d'ailleurs appel à ces mêmes statistiques successorales lors des débats parlementaires de 1907-1908, mais les préjugés et les intérêts étaient trop forts pour emporter l'adhésion du Sénat, tout du moins dans le contexte politico-idéologique et événementiel du moment. Les élites de la Troisième République se fondaient certes sur quelques comparaisons potentiellement pertinentes, en particulier le fait que la propriété terrienne était nettement plus morcelée en France qu'au Royaume-Uni, notamment en raison des redistributions relativement limitées opérées sous la Révolution française, mais surtout parce que la concentration terrienne était exceptionnellement forte outre-Manche. Et aussi sur le fait que le Code civil avait institué en 1804 le principe du partage égalitaire des successions à l'intérieur des fratries. Cette égalité des partages successoraux, qui en pratique concernait surtout les frères, car les sœurs, une fois mariées, perdaient presque tous leurs droits au profit de leurs époux, dans le cadre du régime propriétariste hautement patriarcal en vigueur au XIXe siècle, fut stigmatisée tout au long du XIXe siècle par la pensée contre-révolutionnaire et anti-égalitaire, qui y voyait les origines d'un émiettement néfaste des parcelles et surtout de la perte d'autorité des pères sur les fils, qu'il n'était plus possible de déshériter. En vérité, le régime légal, fiscal et monétaire en vigueur au XIXe siècle et jusqu'en 1914 était dans son ensemble hautement favorable à la concentration extrême de la propriété, et ces facteurs jouèrent un rôle autrement plus important que le partage égalitaire entre frères institué par la Révolution. Quand on relit ces épisodes en ce début de XXIe siècle, avec le recul dont nous disposons aujourd'hui sur la Belle Époque, on ne peut qu'être frappé par l'hypocrisie d'une part importante des élites françaises, ainsi que de nombreux économistes, qui n'hésitaient pas à nier, contre toute évidence, que les inégalités puissent poser le moindre problème en France, quitte à faire parfois preuve d'une certaine mauvaise foi. On peut certes voir dans ces positions l'expression d'une peur panique face à la menace d'une escalade redistributrice néfaste qui viendrait mettre à mal la prospérité du pays, à une époque où aucune expérience historique directe de la progressivité fiscale à grande échelle n'avait encore eu lieu. Il n'en reste pas moins que la relecture de ce type d'épisode doit nous mettre en garde face à la répétition de ce type de dérive pour l'avenir. Nous verrons que ce type de grand récit national à courte vue est malheureusement fort répandu dans l'histoire des régimes inégalitaires. En France, le mythe de l'exceptionnalité égalitaire et de la supériorité morale du pays a souvent été utilisé pour servir de paravent aux égoïsmes et aux insuffisances nationales, qu'il s'agisse des systèmes de domination coloniale ou patriarcale appliqués au XIXe siècle et une bonne partie du XXe siècle, ou des inégalités béantes qui caractérisent encore aujourd'hui le système éducatif français. Nous retrouverons également des formes voisines de nationalisme intellectuel aux États-Unis, où l'idéologie de l'exceptionnalisme américain a souvent permis de refermer le couvercle des inégalités et de la dérive plutocratique du pays, pourtant de plus en plus évidente au cours de la période 1990-2020. Il est également plausible qu'une forme similaire d'autosatisfaction historique se développe un jour prochain en Chine, à moins que ce ne soit déjà le cas. Mais avant d'en arriver là, il nous faut poursuivre l'étude de la transformation des sociétés d'ordre européenne en sociétés de propriétaires, afin de mieux comprendre la multiplicité des trajectoires et des bifurcations en jeu. Le capitalisme, un propriétarisme de l'âge industriel. Avant d'aller plus loin, je voudrais également clarifier les liens entre les notions de propriétarisme et de capitalisme, telles que je les envisage dans cette enquête. Dans le cadre de ce livre, je préfère insister sur la notion de propriétarisme et de société de propriétaires, et je propose de concevoir le capitalisme comme la forme particulière que prend le propriétarisme à l'âge de la grande industrie et des investissements financiers internationaux, c'est-à-dire principalement à partir de la seconde moitié du XIXe et du début du XXe siècle. De façon générale, qu'il s'agisse du capitalisme de la première mondialisation industrielle et financière, la Belle Époque, ou de l'hypercapitalisme mondialisé et digital des années 1990-2020, phase toujours en cours, le capitalisme peut se voir comme un mouvement historique, consistant à repousser sans cesse davantage les limites de la propriété privée et de l'accumulation d'actifs, au-delà des formes traditionnelles de détention et des frontières étatiques anciennes. Ce mouvement passe par le développement de moyens de transport et de communication, permettant ainsi l'accroissement des échanges, de la production et de l'accumulation à l'échelle mondiale, et, de façon plus fondamentale encore, par le développement d'un système légal de plus en plus sophistiqué et globalisé, permettant de coder les différentes formes de détention matérielles et immatérielles et d'en garantir autant que possible la pérennité pour les propriétaires, à l'insu de tous ceux qui pourraient vouloir s'en prendre à leurs biens, à commencer par tous ceux qui ne possèdent rien, et à l'insu, parfois aussi, des États et des systèmes légaux nationaux. En ce sens, le capitalisme est intimement lié au propriétarisme que je définis dans cette enquête, comme une idéologie politique plaçant au cœur de son projet la protection absolue du droit de propriété privée, conçu en principe comme un droit universel, c'est-à-dire indépendant des inégalités statutaires anciennes. Le capitalisme classique de la Belle Époque est l'extension du propriétarisme à l'âge de la grande industrie et de la finance internationale, de même que l'hypercapitalisme de la fin du XXe siècle et du début du XXIe en est le prolongement à l'âge de la révolution digitale et des paradis fiscaux. Dans les deux cas, de nouvelles formes de détention et de protection de la propriété se mettent en place de façon à garantir la pérennité de l'accumulation patrimoniale. Les notions de propriétarisme et de capitalisme gagnent cependant à être distinguées, car le propriétarisme, comme idéologie, s'est développé au cours du XVIIIe siècle, donc beaucoup plus tôt que la grande industrie et la finance internationale. Il émerge dans des sociétés qui sont encore, pour une large part, pré-industrielles, comme une forme de dépassement de la logique trifonctionnelle, dans le cadre des possibilités offertes par la formation de l'État centralisé et sa capacité nouvelle à prendre en charge les fonctions régaliennes et la protection générale du droit de propriété. En tant qu'idéologie, le propriétarisme pourrait, en théorie, s'appliquer dans le cadre de communautés principalement rurales et de formes de détention relativement étroites et traditionnelles afin de les préserver. En pratique, la logique de l'accumulation tente à pousser le propriétarisme à étendre autant qu'il est possible les frontières et les formes de la propriété, sauf bien sûr si d'autres idéologies et institutions viennent lui mettre des limites. En l'occurrence, le capitalisme de la fin du XIXe siècle et du début du XXe correspond à un durcissement du propriétarisme à l'âge de la grande industrie, avec des rapports de propriété de plus en plus tendus entre les actionnaires et le nouveau prolétariat urbain, concentré au sein de vastes unités de production, unies face au capital. Ce durcissement se retrouve d'ailleurs dans la façon dont le roman du XIXe siècle met en scène l'évolution des relations de propriété. La société de propriétaires des années 1810-1830, évoquée par Balzac, nous montre un monde où la propriété est devenue un équivalent universel, permettant de produire des revenus annuels sûrs et d'organiser l'ordre social, mais où la confrontation directe avec ceux qui travaillent pour payer ces revenus est largement absente. L'univers balzacien est profondément propriétariste, comme celui d'Austin, dont les intrigues se déroulent dans le Royaume-Uni des années 1790-1810. Mais nous sommes dans les deux cas très éloignés du monde de la grande industrie. À l'inverse, quand Zola publie Germinal en 1885, la tension est à son zénith dans les bassins miniers et industriels du nord de la France, alors que les ouvriers ont épuisé leurs maigres caisses communes dans la grève très dure qui les oppose à la compagnie des mines. L'épicier Maigrat refuse de leur faire crédit. Il finira émasculé par les femmes, exténué et ivre de sang après des semaines de lutte, écœuré des faveurs sexuelles que ce vil agent du capital avait si longtemps exigées d'elle et de leur fille. Ce qui reste de son corps sera exposé publiquement et traîné dans la rue. On est assez loin des salons parisiens de Balzac et des bals de Jane Austen. Le propriétarisme est devenu capitalisme. La fin est proche.